organisateurs et organisatrices du club de m'avoir permis de participer à cette journée. Donc je vais commencer tout de suite ma présentation par un constat qui m'a particulièrement interrogée dès le début de mon terrain, qui était que concernant l'expérience du racisme et des discriminations à l'école, mes enquêtées britanniques rapportaient massivement plus de racisme et de discrimination que les Français. Et cela était d'autant plus surprenant que concernant d'autres formes de racisme ou de discrimination dans d'autres contextes, la différence n'était pas si saillante que ça. Donc là, il fallait s'interroger sur comment expliquer une telle différence. Et je me suis appuyée sur la littérature sur l'expérience des racismes et des discriminations qui soulève une question, à savoir, lorsque les personnes interrogées rapportent des expériences de racisme ou de discrimination, est-ce qu'il s'agit de confrontation à des faits, à des événements, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une influence de la manière dont les personnes interprètent leur vécu, dont elles perçoivent ce qui leur arrive. Et en effet, dans les travaux de Philomena et Sed, on voit bien que la détection de phénomènes racistes est liée en partie donc à des connaissances collectives, mais aussi individuelles, du racisme. Et donc je m'appuie à cet égard pour parler donc de ces perceptions, de ces manières d'appréhender ces expériences sur le terme de cadrage, cadrage des expériences, qui est un terme donc de Goffman. Et je me situe dans la continuité des travaux de Michel Lamont et ses collègues, qui ont montré que les individus se servent des répertoires nationaux des pays dans lesquels ils vivent pour parler de leurs expériences. Eux, ils disent de stigmatisation, c'est le terme qu'ils emploient. Je me rends compte que ça ne doit pas être le même... J'ai changé des choses et finalement, c'est pas le bon PowerPoint. Je suis désolée de tout ça. Mais juste un dernier point donc, sur la question de racisme et de discrimination. Donc là, j'emploie un peu facilement les deux termes en sachant qu'il y a d'une part des comportements racistes, donc liés à des stéréotypes, et d'autre part des comportements discriminatoires qui sont liés, donc des traitements différentiels. Et on va voir que les deux sont interconnectés dans ce que je montre. Donc il faut revenir à cette question du coup des répertoires français et britanniques. Donc ça renvoie à une grosse littérature, à des débats, et je vais passer très très vite sur cette question parce que c'est plus intéressant d'être directement sur la question des résultats. Deux modèles d'intégration opposés traditionnellement dans la littérature, donc pour dire les choses rapidement, multiculturalisme britannique d'un côté, assimilationnisme à la française de l'autre. Évidemment, ces modèles d'intégration, ces idéologies ont une influence en termes de politique publique et en termes de discours politique. Pour donner un exemple rapide, cette question de la race est explicite et fait partie des débats publics au Royaume-Uni, alors que c'est une question qui est occultée dans le contexte français qui se veut « colorblind ». Et évidemment, tout cela a un impact direct sur les politiques scolaires. Là encore, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sur la méthodologie, donc je m'appuie sur 82 entretiens semi-directifs, donc menés auprès de diplômés du supérieur d'origine subsaharienne dans les villes de Paris et de Londres. Donc j'ai une grande diversité au sein de mon échantillon sur lequel je ne vais pas m'étendre, donc en termes de pays d'origine, de cursus, d'âge. Mais un point que je voulais souligner concernant le colloque et qui me semble intéressant, c'est que concernant les trajectoires scolaires, j'ai des personnes qui ont fréquenté tout type d'établissements, et notamment des établissements très mixtes, avec une population de toutes origines, et d'autres qui ont en revanche fréquenté des établissements où il y avait principalement des Blancs. Donc pour revenir maintenant à mes résultats, je montre qu'au Royaume-Uni, en fait, il y a une connaissance objectif du phénomène de racisme qui est connu dans les discours publics et qui permet aux individus de cadrer aisément et avec assurance leur expérience de racisme et de discrimination. Donc les discours dans le cas britannique sont très affirmés, exprimés sans hésitation. Donc, déjà, on peut voir que mes enquêtés rapportent explicitement, enfin spontanément, leur expérience de racisme. Donc là, j'espère que tout le monde est à l'aise avec l'anglais. Mais donc je pose juste la question « How did it go with other children ?» Je traduis. Donc comment ça se passait avec les autres élèves? Et lui, donc mon enquêté, Abdikadir, me parle directement de racisme. Et là, il me dit, mais c'était pas les autres élèves, c'était plus les enseignants. It was more the teachers. Donc on voit que c'est abordé de manière explicite. Et ensuite, il y a effectivement cette utilisation assumée du terme, ou un cadrage explicite en termes raciaux. Et donc, ce qui se voit dans la citation de Grace, qui me dit les enseignants ne nous did not encourage them as much as encourage white students. Donc, elles nous encourageaient moins qu'elles ont encouragé les étudiants blancs. Donc, elle fait explicitement référence à des critères raciaux. Ensuite, ce qui est intéressant dans les discours britanniques, c'est que j'ai noté de grandes similarités dans les expériences rapportées et même dans les termes utilisés. Donc, il y a trois dimensions qui émergent explicitement. Donc, déjà, c'est le fait qu'un racisme enseignant est dénoncé en disant les enseignants ont des stéréotypes, ont des préjugés. Ils se manifestent sous quelle forme ? Déjà, le fait qu'ils considèrent que les élèves noirs ont plus de sont des élèves plus turbulents, et donc ça a pour conséquence qu'ils sont plus facilement punis. Et là, c'est ce que décrit Abdikadir. Il dit donc si je faisais quelque chose, ça devenait un très gros problème, alors que pour d'autres élèves, c'était pas forcément le cas. Et l'autre élément, c'est ce concept de low expectations, donc de faible attente, qui revient fréquemment dans les discours, avec ce terme précis de low expectations. Et c'est ces idées que comme les enseignants ont moins d'attentes, en fait, ils poussent moins les élèves noirs, et ils considèrent que, en fait, ils ont moins d'attentes parce qu'ils considèrent que ces élèves sont de fait plus mauvais à l'école. Et c'est ce qui se voit dans la citation de Grace. Qui me dit que les enseignants n'encourageaient pas autant les élèves noirs que les élèves blancs. Y a une autre dimension qui est une réelle montée en généralité dans la manière dont les Britanniques parlent. Donc ils ne parlent pas d'une expérience à un moment donné, mais ils parlent de nous, les enfants noirs, black children, black kids, ou black boys, parce qu'il y a souvent cette dimension de genre qui est amenée. Et puis, ils opposent à cela les teachers, donc les enseignants en général. Et ça se voit très bien dans la citation d'Emmanuel, qui me dit, qui généralise son propos en disant « La première expérience des enseignants que tu peux avoir, c'est qu'ils s'attendent à ce que tu réussisses seulement jusqu'à un certain point. » Donc là, on voit bien que son discours est déjà en fait une montée en généralité. Il ne parle pas seulement de son expérience. Et donc, comment expliquer cette assurance qu'ont les Britanniques à parler de racisme et de discrimination à l'école? Il me semble que c'est en partie par le fait qu'ils s'appuient en fait sur une connaissance factuelle du racisme et des discriminations. Qui passe notamment par des statistiques ethniques. Et cela se voit explicitement dans les discours. Les enquêtés ont tendance à citer des statistiques. Donc, ils ne font pas référence à des études précises, mais ils parlent de statistiques. Et c'est ce qui se voit dans cette citation de Daye Chatou, qui m'explique en quoi les black boys... Les jeunes hommes noirs sont souvent confrontés à des stéréotypes et sont considérés comme un problème. Et elle me dit, concernant l'éducation, tu as juste à regarder des attainment figures, donc les graphes qui montrent la réussite scolaire de ces enfants. Et donc l'autre dimension, donc, c'est non seulement il y a des faits qui prouvent le racisme, mais en plus avec ces statistiques ethniques, il y a une dimension structurelle, donc c'est-à-dire que ça concerne l'ensemble des élèves. Et donc ça permet en fait cette montée en généralité. Et l'autre dimension, c'est que mes enquêtés me citent ce genre de statistiques à travers des sources médiatiques. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose d'officiel et donc de légitime dans le fait de porter ce type de discours. Et ce que l'on voit dans la citation d'Evelyne qui me cite, qui me dit il y a beaucoup de recherches et tu as juste allé regarder sur les sites du Time ou du Guardian. Mais néanmoins, il faut souligner que c'est plus spécifiquement que plus les enquêtés sont politisés et conscientisés sur la question raciale, plus ils vont faire référence à ce type de ressources. Ensuite, dans le cas français, c'est tout l'inverse. Là, donc déjà, j'ai très peu de cas de gens qui me parlent de racisme et de discrimination, et à partir du moment où ils m'en parlent, vous allez voir qu'en fait, ils sont très hésitants dans la manière dont ils formulent leurs expériences de racisme. Donc le terme est évoqué, et puis très rapidement, le terme est retiré, ce qui se voit très bien dans les citations. Donc, Khadija qui me dit « Après, je dirais pas que c'était du racisme, mais je sais qu'il nous a mis des bâtons dans les roues. » Donc elle mentionne le racisme, mais elle dit que c'en est pas. Et puis Mathieu qui me dit « Non, j'ai pas senti qu'il y avait du racisme, de la discrimination, mais c'était pas franc. » Donc il dit là encore « Non, il n'y a pas de racisme, mais quand même, il y avait quelque chose de... » Donc ils finissent... En fait, ils utilisent le terme de racisme, mais pour dire qu'il n'y en avait pas. Et l'autre chose aussi qui surgit de manière assez évidente dans les entretiens, c'est cette hésitation. Plusieurs fois, donc j'ai mis en rouge, ils disent peut-être, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et cela s'explique, à mon sens, par une dimension qui apparaît explicitement dans les entretiens, c'est cette volonté de ne pas se présenter comme victime. Et en effet, quand tu dis, je dirais que c'était pas du racisme, elle me répond, Khadija me répond, ce serait un peu la facilité de dire que c'est parce que je suis noire. Et pareil, Sédar me dit, j'ai pas envie de me servir de ça comme d'une excuse. Donc ensuite, très rapidement, il y a deux autres dimensions, enfin même trois autres dimensions. Donc le fait que l'expérience est pensée comme singulière, donc c'est seulement une expérience raciste à un moment clé, avec un enseignant en particulier. Ensuite, plusieurs fois, j'ai perçu une déresponsabilisation de l'acteur raciste, donc en l'occurrence de l'enseignant, ce qui se voit bien à travers la citation de Cédar qui me dit, mais quand même, enfin, il décrit une expérience de traitement injuste avec une enseignante qu'il n'arrive pas trop à définir. Mais il dit, elle s'était fait agresser physiquement par un élève de bac pro qui était d'origine, enfin c'était un noir, et je crois que ça l'avait marqué. Et ensuite, j'ai même des cas de banalisation très directe du racisme. Donc là, c'est une enquêtée qui me parle d'une situation où la maîtresse a expressément dit à sa mère qu'elle n'aimait pas les noirs, et elle a jeté par la fenêtre la trousse de cette petite fille, enfin du coup de cette jeune femme que j'ai interviewée. Et elle commence l'histoire en disant « Mais ça m'a vraiment pas traumatisée, je m'en souviens même pas. » Et en fait, donc là, il me reste une minute. Ce que, ça veut pas dire que les Français ne parlent pas d'injustice à l'école, mais quand ils parlent d'injustice, ils vont choisir un autre... c'est un autre cadrage qui va être mis en avant, et plutôt l'injustice va être exprimée en termes socio-économiques et en termes de ségrégation urbaine. Donc, par exemple, quand j'ai plusieurs cas où il y a des orientations discriminatoires qui sont évoquées, mais du coup c'est plus la question du quartier qui va être mis en avant. Donc quand je demande à Alexis qui me dit que son frère a été injustement orienté en BEP, mais pourquoi il a eu cette proposition d'orientation, il me dit bah, clairement dans ce collège-là, on mettait tous les enfants de quartier dans des lycées professionnels. Et il y a clairement des dénonciations, les personnes interrogées dénoncent des inégalités fortes entre les établissements, notamment du point de vue des moyens, mais aussi concernant, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup, Donc oui, donc il y a juste cette question d'inégalité en termes d'orientation, de conseils pour les études dans le supérieur, et également une dénonciation qui est faite concernant des inégalités par rapport à l'investissement parental. Donc le fait que leurs parents, eux, connaissent moins le système scolaire et n'ont pas de possibilité d'avoir des cours particuliers. Donc il y a cette injustice-là, socio-économique, qui est mise en avant. Oui. Donc voilà, juste pour conclure, sur un point qui me semble quand même intéressant, c'est que derrière ce cadrage en termes socio-économiques, en réalité, quand on creuse dans les discours, je n'ai pas pu insister là-dessus, mais on voit quand même en fait un nous racisé, un nous racial qui émerge, mais de manière très sous-jacente, notamment à travers la citation d'une enquêtée qui me parle justement par rapport à ses cours particuliers, qui me dit mais Marie ou Stéphanie, ça va être plus simple pour elle d'avoir des cours particuliers. Mais du coup, il y a à la fois cette dimension d'origine, de culture et de race qui vient s'imbriquer par rapport à ces questions d'injustice socio-économique. Et je termine là-dessus.
Je suis désolée, je sais que c'est frustrant pour tout le monde, mais c'est le jeu si chacun veut avoir le temps de nous parler. La technique nous enlève toujours des minutes, donc
on met merci aux courageux qui sont restés jusqu'au bout, d'autant plus que je vous parlais de quelque chose d'un peu moins connu. Je vais essayer de résumer très rapidement et ne pas manger toutes mes minutes en vous parlant un tout petit peu de la configuration du champ scolaire belge, francophone. Donc moi, je vais vous parler de la gestion de la diversité ethnoculturelle dans le quasi-marché scolaire. Malgré que en Belgique, nous avons les écoles ont vraiment dans le champ scolaire, on a vraiment une composition ethnique diversifiée des populations scolaires. On a énormément de chiffres qui l'attestent, et particulièrement en région bruxelloise, il y a relativement peu de politiques de promotion de la diversité culturelle. Elles sont Marie Verhoeven a bien montré qu'elles sont peu développées et relativement récentes. Et par ailleurs, les cadres de pensée qui sous-tendent l'action publique en matière d'intégration en Belgique francophone sont assez semblables à ce qu'on peut observer en France. Ils sont assimilationnistes, comme l'a bien analysé Ilk Adam, une collègue de l'AVP. Et donc dans ce contexte, notre question, parce que ce que je vais vous présenter, c'est le résultat vraiment d'un travail collectif, on s'est posé finalement comment les agents scolaires gèrent leur population d'élèves aux origines ethniques diversifiées. Alors cette question, elle se pose tout particulièrement dans le contexte éducatif belge, qui est très très différent du contexte centralisé, enfin, en tout cas de l'extérieur, du contexte centralisé de la France. La Belgique n'est pas du tout un État centralisé. Leifert l'a bien conceptualisé comme étant un État une démocratie consociative, et donc il y a vraiment une tradition décentralisatrice qui pèse sur l'organisation du champ éducatif belge. Il y a une liberté d'action, d'organisation et de gestion des écoles qui est vraiment laissée aux agents scolaires, d'où notre question. Il y a énormément de travaux qui montrent que le système d'enseignement de la Belgique francophone est un quasi-marché scolaire. C'est une organisation qui renvoie à un mode de financement public, une liberté de choix d'établissement par les familles et un mode de calcul pour l'affectation des moyens aux écoles qui dépend du nombre d'élèves inscrits. Alors ça a pour conséquence que la répartition des élèves, selon leurs caractéristiques académiques et socio-économiques, c'est vraiment un enjeu vraiment décisif qui structure vraiment au sein d'un même espace local, un ensemble de positions hiérarchisées et d'interdépendance entre les écoles qui sont compétitives et asymétriques. Donc la littérature, elle est vraiment abondante en Belgique là-dessus, et tout particulièrement en Belgique francophone. Et il y a d'où notre focalisation sur la ségrégation scolaire. Et comme résultat de la ségrégation scolaire, les travaux qualitatifs, comme ceux de Marie de Rouvonne, montrent qu'il y a vraiment une spécialisation des écoles. Les travaux de Marie Vourovon, travaux qualitatifs, l'a conduit à dire que la répartition des élèves comme enjeu qui est vraiment structurant en fonction des caractéristiques socio-économiques et académiques, elle l'élargit aux caractéristiques migratoires, ethniques des élèves. Alors moi, je vais répondre donc à la question que j'ai annoncée en m'appuyant sur les résultats du baromètre diversité enseignement. Je vais vous les montrer de manière assez brute parce qu'on est en train de les digérer et on va petit à petit sortir d'autres publications. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur Internet. Le rapport est disponible sur le site d'UNIA, qui est le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui nous a financé. Et donc c'est un rapport qui fait un peu un état des lieux des inégalités dans le champ éducatif belge. Nos collègues néerlandophones faisaient la même chose au même moment pour le champ éducatif belge néerlandophone. Alors il y a plusieurs parties dans le rapport. Moi je vais vous mettre particulièrement, je vais vous parler montrer les résultats sur la gestion de la diversité, enfin quelques résultats sur la gestion de la diversité des élèves. Mais il y a aussi une partie qui porte sur l'orientation scolaire, qu'on devait d'ailleurs présenter au colloque sur l'intersectionnalité, mais pour différentes raisons on n'avait pas pu venir, mais on avait suivi tout ce qui s'était passé, tous les débats qu'il y avait eu autour de ce colloque. Pour analyser la gestion de la diversité dans l'enseignement primaire et secondaire, hein, c'était vraiment une étude à grande échelle. On a d'abord fait une phase exploratoire qualitative. On a fait des focus groupes. Hein. En Belgique, on utilise beaucoup cette méthode, la méthode d'analyse en groupe qui a été mise en place par un sociologue belge, Luc Van Kampenhout. Et donc, on a réuni des experts de la diversité pendant ces séminaires, ces groupes de discussion. De là, on a tiré toute une série d'hypothèses qu'on a testées, qu'on a essayé de tester sur le plan quantitatif. En adressant un questionnaire aux directeurs et aux enseignants d'un échantillon représentatif d'établissements du champ éducatif belge francophone. Et puis on a fait de nouveau des focus group où on a réuni toute une série d'acteurs de terrain, à nouveau des experts de la diversité et du personnel éducatif. Alors, des phases plutôt qualitatives, voici, enfin, je mets en avant un résultat. On a beaucoup discuté dans les focus group des pratiques et des dispositifs d'accueil des primo-arrivants et des mineurs étrangers non accompagnés, comme on les appelle en Belgique. Et ce qui était intéressant, il y avait toute une série donc, d'acteurs du secteur associatif, mais aussi des institutions publiques, etc., de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui discutaient un petit peu de qui apportaient leur témoignage, leur récit par rapport à la gestion de la diversité dans le champ scolaire éducatif francophone. Et par exemple, il y avait des tuteurs qui dépendent des services des tuteurs qui assistent les mineurs étrangers non accompagnés dans leur démarche d'inscription, par exemple dans une école. Et voilà, je cite une tutrice de Bénin, elle dit « ça me pèse parce que j'ai vraiment l'impression que je dois négocier un produit quand je dois inscrire un jeune ». Et donc, c'est vraiment ce qui était rapporté, c'est qu'on nous rapportait vraiment dans le cadre de ces focus group qu'il y avait vraiment on devait négocier l'inscription des mineurs étrangers non accompagnés ou pour d'autres associations, quand on aidait les familles primo-arrivants, c'était la même chose. Et ce qui était relevé par ces différents experts de la diversité, ils disaient que les écoles, en général, étaient en contact avec les tuteurs, avec les associations qui aidaient les familles de primo-arrivants à trouver une école, etc. Et bien, à chaque fois, en fait, sans le vouloir, bon gré mal gré, ils étaient toujours orientés vers les écoles en discrimination positive. Donc, si jamais on peut y revenir, si ce n'est pas clair, si ce n'est pas le même jargon, j'ai essayé de simplifier. Enfin, on appelle maintenant ça encadrement différencié, c'est-à-dire que c'est des écoles qui ont plus de moyens parce que leur indice socio-économique moyen est très très bas. Et par contre, malgré toutes les tentatives des agents, des associations, du secteur associatif, des tuteurs de MENA, etc., c'était très très difficile d'inscrire les MENA, les primo-arrivants, dans les autres écoles, donc les écoles plutôt du haut de la hiérarchie. Limite, on faisait un geste pour l'extrascolaire. Et donc, on interprétait, les acteurs présents dans les focus group parlaient vraiment de pratiques de charité dans les écoles du haut de la hiérarchie à l'égard des MENA et des primo-arrivants. Alors, il faut savoir que les écoles qui sont en discrimination positive, en fait, c'est pas un hasard, c'est généralement elles qui disposent, qui ont des dispositifs d'accueil et de scolarisation pour les primo-arrivants. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les DASPA sont créées sur base volontaire. Et ce qui ressort vraiment de la phase qualitative, c'est que finalement, il y a des écoles qui se spécialisent. Qui se spécialise vraiment, donc c'est vraiment un effet du quasi-marché scolaire, c'est qu'il y a toute une série d'écoles qui se spécialisent autour des thèmes de l'exil, des migrations, et donc ça font vraiment, c'est au cœur de leur politique. Mais bien sûr, ils participent donc à la ségrégation scolaire sur la base de l'origine migratoire des élèves. Donc ça, c'est un résultat qualitatif, pardon. Il n'y a pas de problème, il reste 5 minutes, mais alors au niveau, on est parti pour le questionnaire qu'on a adressé donc au directeur et aux enseignants. On les a soumis à toute une série d'items qui concernent les politiques, les pratiques et les moyens de diversité des écoles. Quand on parle des politiques, c'est vraiment en fonction du contexte de la Belgique. C'est les politiques des écoles qui ne sont pas formalisées. Ça ne renvoie pas aux politiques publiques puisqu'elles ont beaucoup de liberté d'action, de gestion, etc. Les items dans le questionnaire, ils portaient sur les politiques de diversité en général, la composition de la classe, etc. Enfin, voilà, vous lisez vous-même. L'échantillon, je passe, il est tout à fait représentatif de la structuration, de la différenciation sociale du champ scolaire en Belgique francophone. Alors, première chose, dans le questionnaire, d'abord, on a relevé énormément d'effets de désirabilité sociale. Donc, à première vue, il n'y avait pas beaucoup de variabilité dans les réponses. Donc, tout le monde faisait... tout le monde avait des politiques de diversité, mais petit à petit, en creusant donc dans l'analyse, il y a toute une série donc de variabilités dans les réponses qui sont apparues, qui confortent vraiment la spécialisation des écoles en termes donc de diversité, c'est-à-dire que toutes les écoles n'ont pas face au même public et donc toutes les écoles n'ont pas les mêmes politiques de diversité. Par exemple, je prends juste un exemple, c'est un item qui porte sur les politiques d'égalité des chances. On demande aux directeurs, aux enseignants, les élèves ayant des difficultés financières devraient recevoir une aide financière supplémentaire, par exemple réduction des frais, fonds spéciaux pour les élèves qui ne peuvent pas se permettre de se payer les voyages scolaires, etc. etc. Alors, dans l'enseignement primaire, presque 50% des directeurs répondent qu'ils sont plutôt d'accord, 35% des directeurs répondent qu'ils sont entièrement d'accord, donc déjà, c'est pas énormément. On a des effets statistiquement significatifs de composition. De strates liées à l'indice socio-économique des établissements et de réseaux, enfin je ne veux pas trop parler des réseaux, mais qui ont été vérifiés par des régressions ordinales multivariées, et donc en fait l'effet de composition il est lié au nombre de non-belges. En fait, lorsqu'il y a plus d'élèves non belges, donc de nationalité non belge, en général, les directeurs, les enseignants sont, soutiennent plus favorablement la proposition. Donc, il y a énormément d'items. C'est énormément, je vais conclure, et si jamais je reviendrai sur certains slides pendant les discussions. Mais donc, il y a vraiment énormément, donc, même s'il y a des effets de désirabilité sociale, on a pu relever énormément d'effets de composition sur les réponses qui sont relatives à, la nationalité des élèves, qui tentent à démontrer qu'on est dans un champ éducatif le champ éducatif belge francophone est fortement ségrégué. Par conséquent, les politiques de diversité sont très contrastées. Dans les écoles avec un indice socio-économique faible et une population scolaire où le taux d'élèves, le pourcentage d'élèves de nationalité étrangère est important, eh bien, on a les écoles se spécialisent autour de la migration, de l'exil. Elles ont des politiques de communication où elles vont à la rencontre des familles issues d'immigration. Elles s'appuient énormément sur les associations, etc. Les associations qui sont issues des minorités ethniques, donc les associations qui viennent des diasporas. Donc c'est plutôt, on va la dire, c'est plutôt bon signe, puisque finalement, quand il y a des besoins, les élèves, les écoles répondent. Mais c'est plutôt inquiétant dans le sens que dans les établissements, par contre, du haut de la hiérarchie, on n'a pas ces choses qui sont mises en place. On a des pratiques qu'on a qualifiées de pratiques de charité ou des pratiques un peu exotiques où on essentialise les cultures des élèves en les désencastrant de leurs conditions matérielles d'existence. Donc on fait une séparation entre l'origine migratoire et l'origine sociale. Et donc finalement, c'est spécial. Donc, notre enquête, elle montre vraiment qu'il y a une spécialisation vraiment des écoles et que il y a vraiment ça renforce en fait la ségrégation scolaire. Alors juste pour terminer et peut-être faire un petit lien pour les discussions avec la communication précédente. Notre enquête a des limites parce qu'elle s'appuie sur les bases de données administratives de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ne répertorie que la nationalité des élèves. Il semblerait que si on avait eu l'origine migratoire plus précise des élèves, on aurait eu encore d'autres résultats qui, à mon avis, renforceraient ce que je viens de dire. Et en tout cas, pour faire le lien avec... il y a quand même vraiment un effet de contexte. Ce n'était pas facile de mobiliser des enquêtes quantitatives pour un tel sujet. Il y a énormément de non-dits, d'où l'importance de faire des enquêtes qualitatives, pointilleuses. C'est ce qu'on va faire. En plus, moi, je suis plutôt quali. Je me suis lancée dans le quanti. Mais voilà.
Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est là une question. Deux, trois questions, une minute par question.
Une question pour Élodie Druet. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je voulais juste savoir si les conditions d'enquête, si vous alliez travailler peut-être l'effet enquêteur. Enfin, est-ce que c'est tout le temps vous qui avez fait les entretiens? Parce que le fait que ce soit aussi tranché qu'en Angleterre, il n'y a aucun doute sur est-ce que je suis en train de vivre du racisme et que... Alors qu'en France, on euphémise, on n'est pas sûr et qu'on est tout le temps à se dire que c'est peut-être dû à autre chose. Est-ce que du coup, il n'y aurait pas aussi un effet, vos interlocuteurs anglais savent qu'ils parlent aussi à une Française qui a ce cadre national, etc. Et inversement, vos interlocuteurs dans le terrain français parlent à une Française identifiée comme blanche, etc. etc. Merci.
On peut prendre les trois questions peut-être, et puis le temps de réponse après.
Jean-Luc,
tu as
déjà le micro, puis il y a
Frédéric. Oui, je sais pas. Oui, ça marche. Oui, moi, c'est une question pour Élodie sur. Enfin, à un moment donné, tu montres bien le contraste entre la situation britannique et française, et tu mets en avant la question des statistiques ethniques. Est-ce que tu ne penses pas quand même que c'est un petit peu plus profond, enfin, en termes d'effet, c'est-à-dire que c'est véritablement la construction sociale, la construction d'un problème social, d'un problème public, qui est celui du racisme, qui diverge entre la situation française et la situation britannique. Enfin, je crois me souvenir qu'il y a eu, par exemple, pour le système éducatif britannique, une commission pour l'égalité raciale. On était dans les années 70 ou début des années 80. Bon, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu l'équivalent en France sur ce thème-là. En Grande-Bretagne, il y a des enquêtes sur les administrations où on essaie d'objectiver le racisme institutionnel. En France, je crois que la notion de racisme institutionnel, je crois que nos ministres la dénonceraient. Enfin, voilà, donc on est quand même dans des situations qui sont très très divergentes de ce point de vue-là. Enfin, c'est pas seulement, je dirais, les statistiques ethniques, c'est un symptôme, d'une certaine manière, d'une construction véritablement différente. Voilà.
Oui, merci. J'ai aussi une question pour Élodie Druez. Je voulais savoir si vos enquêtés, dans vos entretiens, vous ont parlé de leur propre stratégie de résistance ou d'évitement face au racisme et aux discriminations, et si vous aviez vu des différences entre le Royaume-Uni et la France sur cette question.
Okay. Moi, je vais poser une question à Géraldine. Je voulais savoir si éventuellement, ce que vous avez observé, vos analyses, est-ce que vous avez regardé si cet état de ségrégation a un effet sur les trajectoires et l'accès à l'enseignement supérieur ? Il vous reste.
Oui, j'imagine que ce micro marche aussi. Alors, la condition enquêteur, c'est une très bonne question qu'on me pose très régulièrement. Et j'ai du coup essayé de mettre en place, enfin de demander à une enquêtée qui avait fait un master de sociologie de me faire quelques entretiens. Et en fait, elle m'en a fait deux. Et après, j'ai eu. Enfin, pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore en cours de route. Et d'ailleurs, je pense qu'avec elle, ça va être compliqué de continuer parce que pour l'instant elle n'est pas disponible, mais cette question là me semble très importante. Après, évidemment, il y a quand même, enfin, je montre deux choses dans ma présentation. Évidemment qu'il y a un effet hésitation, mais on voit bien aussi qu'il y a une différence de construction de discours qui est très forte, et ça je pense que c'est beaucoup moins lié à ma présence et à la relation enquêteur-enquêté et à la censure que ça peut susciter. Mais cette question est très importante, et du coup ça pose de manière générale la question de la position en tant qu'enquêteur blanc ou que chercheur blanc travaillant sur des groupes racisés. Et je pense que c'est un questionnement qu'il faudrait généraliser ou même faire un séminaire dessus. je lance une piste. Concernant ta question, Jean-Luc, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair que c'est une question de cadrage qui est beaucoup plus profonde, et ce n'est pas seulement la question des statistiques ethniques. C'est juste que pour les statistiques ethniques, par rapport à la question scolaire, ça apparaît de manière très flagrante dans les entretiens. Mais en fait, il y avait une autre dimension que j'ai hésité à mettre. Et puis après, je me suis dit, mais quand même, il parle de racisme institutionnel. Et je trouve que dans la manière dont ils décrivent le process, donc il y a des préjugés qui entraînent des comportements différentiels et qui limitent de manière structurelle les enfants noirs dans leur réussite scolaire, parce que c'est le type de discours qui me tiennent. On ressent quand même cette grille de lecture en termes de racisme institutionnel. Après, ils me parlent plus de racisme institutionnel dans d'autres contextes, notamment le contexte de la police, le contexte de la justice. Il y en a certains qui me parlent un peu de racisme institutionnel dans le contexte scolaire, mais c'est plus ténu, et donc du coup j'ai hésité à le mettre, et puis finalement je l'ai enlevé parce que j'étais pas sûre de ce que je voulais dire précisément en 15 minutes dessus. Mais il y a clairement effectivement une différence de construction aussi théorique du discours entre la France et le Royaume-Uni. Et pour la dernière question, sur les questions de stratégie de résistance au racisme et aux discriminations, dans mes entretiens, je pose souvent cette question de comment tu réagis, au moment de l'interaction, quelles ont été les réponses apportées. Après, ça dépend, tout dépend de la, la, Est-ce que je situe ma réponse seulement dans le cadre scolaire, ou dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose qui est fait, et notamment parce que c'est des faits quand même qui sont vraiment passés par rapport au moment où l'enquêté me raconte la situation. Mais si je prends plus largement cette question en termes de résistance, au moment clé de l'interaction discriminatoire ou raciste, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des... Enfin, au premier abord, quand j'y réfléchis, j'ai pas l'impression que ça soit qu'il y ait déjà beaucoup de résistance, quoique il y ait plus dans le discours britannique cette idée de répondre et d'expliquer, alors que du côté français, il y a plus une tendance à banaliser, à dire « de toute façon, c'est pas grave ». Mais bon, ça serait un résultat vraiment à creuser. Et après, j'ai quand même perçu de manière plus fréquente dans le contexte britannique une tendance à vouloir porter plainte de manière, ou à même à aller porter plainte, mais du coup pas dans le cadre scolaire, mais plutôt dans le cadre de racisme face à la police. Donc j'ai le cas de plusieurs enquêtes, une enquêtée qui me disait « Ah, mais mon frère aurait vraiment dû porter plainte », ou même un enquêté qui s'est fait arrêter par la police, donc du contrôle au faciès, et qui se met très en colère et va porter plainte au commissariat d'en face. Ce que j'ai pas perçu dans le cas britannique. Mais en tout cas, c'est vraiment une question à creuser, que je creuserai pour ma thèse. Et merci beaucoup de la question.
Juste une précision par rapport à l'Angleterre, mais ils font beaucoup de statistiques ethniques, et dans toutes les administrations scolaires, quand on va inscrire les enfants, on doit dire sa race, on doit dire on a une liste, donc ça existe terriblement, enfin déjà. Enfin,
c'est très présent dans le quotidien des individus.
Donc je ne crois pas que c'est les médias et les derniers rapports. Je pense que c'est les politiques.
Après, il faut bien des résultats. Enfin, après, ouais. Peut-être que dans la vie des individus, on leur demande, enfin, ils ont ce rapport aux statistiques ethniques directes parce qu'ils doivent cocher des cases. Mais après, il y a quand même des résultats qui sont médiatisés. Et encore une fois, moi, je me base sur ce que disent les gens,
ouais.
Sur ce que je retrouve dans mes entretiens de manière explicite.
Et ils ont tous la même, plus ou moins la même origine sociale.
Alors, ils sont tous diplômés du supérieur. Après, il y a quand même des diversités en termes de type de trajectoire universitaire. J'ai des gens qui sont vraiment de l'élite, qui sont médecins, avocats, etc. Je ne suis peut-être pas rentrée dans le détail. Et en termes d'origine sociale, là encore, j'ai quand même des cas de gens dont les parents sont également très diplômés. Et puis, j'ai des cas de gens qui viennent de milieux populaires. Et en sachant que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai une différence quand même entre le contexte français et britannique, qui est due en fait au profil des migrants d'origine subsaharienne qui vont au Royaume-Uni ou en France.
Les bases de données administratives sont assez limitées, donc on ne sait pas faire de suivi et voir ce que deviennent les élèves sur le plan quantitatif. Par contre, on a fait toute une série d'analyses qui montrent que dans les établissements qui présentent de l'enseignement qualifiant, enfin technique et professionnel, il y a un pourcentage élevé d'élèves, enfin comparativement aux écoles qui ont uniquement de l'enseignement général, comme on dit, il y a plus d'élèves à l'origine, avec une origine sociale faible, et des élèves de nationalité étrangère dans les écoles techniques et professionnelles. Donc ça, c'est vraiment des données qu'on a produites et reproduites, et qui sera, à mon avis, encore, si on pouvait préciser un peu plus l'origine migratoire, comme par exemple dans les données PISA, je pense que ce sera encore plus la ségrégation entre les établissements sur la base de l'origine migratoire et d'origine sociale sera encore plus forte. Voilà. Et évidemment que ça a un impact. Donc C'est Marie Rouven donc, qui a travaillé en 2002, qui a montré sur le plan qualitatif à quel point il y avait, c'était des univers de socialisation très très contrastés et très très différents. Et à quel point ben, c'était des univers de socialisation donc, qui ont un impact très très fort sur les trajectoires. On peut imaginer que ça a un impact très très fort sur les trajectoires. Mais nous, on ne sait pas le montrer sur le long terme. Mais c'est certain qu'à partir du moment où on ne va pas dans les mêmes écoles, donc et ça pèse vraiment sur les trajectoires. Il est très difficile, on a quand même des chiffres qui montrent en matière de flux entre les écoles, il est passé d'une école à discrimination positive vers une école qui ne l'est pas, est un flux vraiment, une orientation très rare, en tout cas sur le plan quanti. Donc, oui.
Voilà ce qui appelle à poursuivre et à des comparaisons internationales. Merci à tous d'être restés jusqu'à cette heure-ci. On a un peu débordé, pas trop quand même. Je rappelle l'importance de tenir le temps parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi pour nous et qui n'ont pas de raison de faire des heures supplémentaires. Donc merci aux gens qui assurent la technique d'avoir cette patience.